Chapitre 7. Gettatore, gettatore, mais ces mots s'adressaient bien à moi, se disait Paul d'Apremont en rentrant à l'hôtel. J'ignore ce qu'ils signifient, mais ils doivent assurément renfermer un sens injurieux ou moqueur. Qu'ai-je dans ma personne de singulier, d'insolite ou de ridicule, pour attirer ainsi l'attention d'une manière défavorable? Il me semble, quoique l'on soit assez mauvais juge de soi-même, que je ne suis ni beau, ni laid, ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, et que je puis passer inaperçu dans la foule. Ma mise n'a rien d'excentrique. Je ne suis pas coiffé d'un turban illuminé de bougies comme M. Jourdain dans la cérémonie du bourgeois gentilhomme. Je ne porte pas une veste brodée d'un soleil d'or dans le dos. Un nègre ne me précède pas jouant des timbales. Mon individualité, parfaitement inconnue du reste à Naples, se dérobe sous le vêtement uniforme, domino de la civilisation moderne, et je suis dans tout pareil aux élégants qui se promènent rue de Tolède ou au Largo du Palais, sauf un peu moins de cravate, un peu moins d'épingle, un peu moins de chemise brodée, un peu moins de gilet, un peu moins le chêne d'or et beaucoup moins le frisure. Peut-être ne suis-je pas assez frisé. Ah, demain, je me ferai donner un coup de fer par le coiffeur de l'hôtel. Cependant, on a ici l'habitude de voir des étrangers, et quelques imperceptibles différences de toilette ne suffisent pas à justifier le mot mystérieux et ce geste bizarre que ma présence provoque. J'ai remarqué d'ailleurs une expression d'antipathie et d'effroi dans les yeux des gens qui s'écartaient de mon chemin. Mais que puis-je avoir fait à ces gens que je rencontre pour la première fois? Un voyageur, ombre qui passe pour ne plus revenir, n'excite partout que l'indifférence, à moins qu'il n'arrive de quelque région éloignée et ne soit l'échantillon d'une race inconnue. Mais les paquebots jettent toutes les semaines sur le môle des milliers de touristes dont je ne diffère en rien. Qui s'en inquiète, excepté les facchini, les hôteliers et les domestiques de place? Je n'ai pas tué mon frère, puisque je n'en avais pas, et je ne dois pas être marqué par Dieu du signe de Caïn, et pourtant les hommes se troublent et s'éloignent à mon aspect. À Paris, à Londres, à Vienne, dans toutes les villes que j'ai habitées, je ne me suis jamais aperçu que je produisisse un effet semblable. On m'a trouvé quelquefois fier, dédaigneux, sauvage. On m'a dit que j'affectais le sneer anglais, que j'imaginais Lord Byron, que j'imitais Lord Byron, mais j'ai reçu partout l'accueil du young gentleman, et mes avances, quoique rares, n'en étaient que mieux appréciées. Une traversée de 3 jours de Marseille à Naples ne peut pas m'avoir changé à ce point d'être devenu odieux ou grotesque, moi que plus d'une femme a distingué et qui ait su toucher le cœur de Miss Alicia Ward, une délicieuse jeune fille, une créature céleste, un ange de Thomas Moore. Ces réflexions raisonnables, assurément, calmèrent un peu Paul d'Apremont, et il se persuada qu'il avait attaché à la mimique exagérée des Napolitains le peuple le plus gesticulateur du monde, un sens dont elle était dénuée. Il était tard. Tous les voyageurs, à l'exception de Paul, avaient regagné leurs chambres respectives. Gelsomina, l'une des servantes dont nous avons esquissé la physionomie dans le conciliabule tenu à la cuisine sous la présidence de Virgilio Falsacappa, attendait que Paul fût rentré pour mettre les barres de clôture à la porte. Nanelia, l'autre fille, dont c'était le tour de veiller, avait prié sa compagne plus hardie de tenir sa place, ne voulant pas se rencontrer avec le forestiere, soupçonné de gettature. Aussi, Gelsomina était-elle sous les armes. Un énorme paquet d'amulettes se hérissait sur sa poitrine, et 5 petites cordes de corail tremblaient au milieu de pampilles à la perle taillée de ses boucles d'oreilles. Sa main, repliée d'avance, tendait l'index et le petit doigt avec une correction que le révérend curé Andrea de Giorgio, hôtel de la Mimica degli Antichi, Investigata nel gestire napoletano, eut assurément approuvé. La brave Gelsomina, dissimulant sa main derrière un pli de sa jupe, présenta le flambeau à M. Lapremont et dirigea sur lui un regard aigu, persistant, presque provocateur, d'une expression si singulière que le jeune homme en baissa les yeux. Circonstance qui parut faire beaucoup de plaisir à cette belle fille. À la voir immobile et droite, allongeant le flambeau avec un geste de statue, le profil découpé par une ligne lumineuse, l'œil fixe et flamboyant, on eût dit la Némésis antique, cherchant à déconcerter un coupable. Lorsque le voyageur eut monté l'escalier et que le bruit de ses pas se fut éteint dans le silence, Gelsomina releva la tête d'un air de triomphe et dit « Je lui ai joliment fait rentrer son regard dans la prunelle à ce vilain monsieur que Saint-Janvier confonde. Moi, je suis sûr qu'il ne m'arrivera rien de fâcheux. » Paul dormit mal et d'un sommeil agité. Il fut tourmenté par toutes sortes de rêves bizarres, se rapportant aux idées qui avaient préoccupé sa veille. Il se voyait entouré de figures grimaçantes et monstrueuses, exprimant la haine, la colère et la peur. Puis les figures s'évanouissaient. Les doigts longs, maigres, osseux, à phalanges noueuses, sortant de l'ombre et rougis d'une clarté infernale, le menaçaient en faisant des signes cabalistiques. Les ongles de ses doigts, se recourbant en griffes de tigre, en serre de vautour, s'approchaient de plus en plus de son visage et semblaient chercher à lui vider l'orbite des yeux. Par un effort suprême, il parvint à écarter ses mains, voltigeant sur des ailes de chauve-souris. Mais aux mains crochues succédèrent des massacres de bœufs, de buffles et de cerfs, crâne blanchi, animé d'une vie morte, qui l'assaillaient de leurs cordes et de leurs ramures, et le forçaient à se jeter à la mer, où il se déchirait le corps sur une forêt de corail aux branches pointues ou bifurquées. Une vague le rapportait à la côte, moulu, brisé, à demi-mort. Et comme le Don Juan de Lord Byron, il entrevoyait à travers son évanouissement une tête charmante qui se penchait sur lui. Ce n'était pas Haïdée, mais Alicia, plus belle encore que l'être imaginaire créé par le poète. La jeune fille faisait de vains efforts pour tirer sur le sable le corps que la mère voulait reprendre et demandait à visser la fauve servante, une aide que celle-ci lui refusait en riant d'un rire féroce. Les bras d'Alicia se fatiguaient, et Paul retombait au gouffre. Ces fantasmagories confusément effrayantes, vaguement horribles, et d'autres plus insaisissables encore, rappelant les fantômes informes ébauchés dans l'ombre opaque des aquatintes de Goya, tortulèrent le dormeur jusqu'aux premières heures du matin. Son âme, affranchie par les hantissements du corps, semblait deviner ce que sa pensée éveillée ne pouvait comprendre et tâchait de traduire ses pressentiments en images dans la chambre noire du rêve. Paul se leva brisé, inquiet, comme mis sur la trace d'un malheur caché par ses cauchemars dont il craignait de sonder le mystère. Il tournait autour du fatal secret, fermant les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre. Jamais il n'avait été plus triste. Il doutait même d'Alicia. L'air de fatuité heureuse du comte napolitain, la complaisance avec laquelle la jeune fille l'écoutait, la mine approbative du commodore, tout cela lui revenait en mémoire, enjolivé de mille détails cruels, lui noyait le cœur amertume, et ajoutait encore à sa mélancolie. la lumière a ce privilège de dissiper le malaise causé par les visions nocturnes. Smara, offusquée, s'enfuit en agitant ses ailes membraneuses lorsque le jour tire ses flèches d'or dans la chambre par l'interstice des rideaux. Le soleil brillait d'un éclat joyeux, le ciel était pur, et sur le bleu de la mer scintillaient des millions de paillettes. Peu à peu, Paul se rasséréna. Il oublia ses rêves fâcheux et les impressions bizarres de la veille, ou s'il y pensait, c'était pour s'accuser d'extravagance. Il alla faire un tour à Chialja pour s'amuser du spectacle de la pédulance napolitaine. Les marchands criaient leurs denrées sur des mélopées bizarres en dialecte populaire, inintelligible pour lui qui ne savait que l'italien, avec des gestes désordonnés et une furie d'action inconnue dans le Nord. Mais toutes les fois qu'il s'arrêtait près d'une boutique, le marchand prenait un air alarmé, murmurait quelque imprécation à mi-voix et faisait le geste d'allonger ses doigts comme s'il eût voulu le poignarder de l'auriculaire et de l'index. Mais les commères, plus hardis, l'accablaient d'injures et lui montraient le poing. Monsieur d'Apremont, chapitre 8, crut en s'entendant injurier par la populace de Chiaja qu'il était l'objet de ces litanies grossièrement burlesques dont les marchands de poissons régalent les gens bien mis qui traversent le marché. Mais une répulsion si vive, un effroi si vrai, se peignait dans tous les yeux, qu'il fut bientôt forcé de renoncer à cette interprétation. Le mot « jettatore » qu'il avait déjà frappé ses oreilles au théâtre de San Carlino fut encore prononcé, et avec une expression menaçante cette fois. Il s'éloigna donc à pas lents, ne fixant plus sur rien son regard, cause de tant de troubles. En longeant les maisons pour se soustraire à l'attention publique, Paul arriva à un étalage de bouquinistes. Il s'y arrêta, remua et ouvrit quelques livres en matière de contenance. Il tournait ainsi le dos aux passants, et sa figure à demi cachée par les feuillets évitait toute occasion d'insulte. Il avait bien pensé un instant à charger cette canaille à coups de canne, mais la vague terreur superstitieuse qui commençait à s'emparer de lui l'en avait empêché. Il se souvint qu'ayant une fois frappé un cocher insolent d'une légère badine, il l'avait attrapé à la tempe et tué sur le coup, meurtre involontaire dont il ne s'était pas consolé. Après avoir pris et reposé plusieurs volumes dans leur case, il tomba sur le traité de la Jettatura du signor Niccolò Valletta. Ce titre rayonna à ses yeux en caractère de flamme, et le livre lui parut placé là par la main de la fatalité. Il jeta au bouquiniste qui le regardait d'un air narquois, en faisant brimballer deux ou trois cornes noires mêlés au breloque de sa montre, les 6 ou 8 carlins pris du volume, et courut à l'hôtel s'enfermer dans sa chambre pour commencer cette lecture qui devait éclaircir et fixer les doutes dont il était obsédé depuis son séjour à Naples. Le bouquin du signor Valletta est aussi répandu à Naples que les secrets du grand Albert l'étaient là où la clé des songes peut l'être à Paris. Valletta définit la jettature, enseigne à quelle marque on peut la reconnaître, par quels moyens on s'en préserve, et il divise les jettatori en plusieurs classes, d'après leur degré de malfaisance, et agite toutes les questions qui se rattachent à cette grave matière. S'il eût trouvé ce livre à Paris, D'Apremont lui feuilletait distraitement comme un vieil almanach farci d'histoires ridicules et eût ri du sérieux avec lequel l'auteur traite ses villes vesées. Mais dans la disposition d'esprit où il était, hors de son milieu naturel, préparé à la crédulité par une foule de petits incidents, il le lut avec une secrète horreur, comme un profane épelant sur un grimoire des évocations d'esprit et des formules de cabale. Quoiqu'il n'eût pas cherché à les pénétrer, les secrets de l'enfer se révélaient à lui. Il ne pouvait plus s'empêcher de les savoir, et il avait maintenant la conscience de son pouvoir fatal. Il était Jettatore. Il fallait bien en convenir vis-à-vis de lui-même. Tous les signes distinctifs décrits par Valetta, il les possédait. Quelquefois, il arrive qu'un homme qui jusque-là s'était cru doué d'une santé parfaite ouvre par hasard ou par distraction un livre de médecine et en lisant la description pathologique d'une maladie, s'en reconnaît atteint. Éclairé par une lueur fatale, il sent à chaque symptôme rapporté tressaillir douloureusement en lui quelque organe obscur, quelque fibre cachée dont le jeu lui échappait, et il pâlit en comprenant si prochaine une main, une mort qu'il croyait fort bien éloignée. Bien Paul éprouva un effet analogue. Il se mit devant une glace. Il se regarda avec une intensité effrayante. Cette perfection disparate, composée de beautés qui ne se trouvent pas ordinairement ensemble, ne faisait plus que jamais ressembler à l'archange déchu et rayonnait sinistrement dans le fond noir du miroir. Les fibrilles de ses prunelles se tordaient comme des vipères convulsives. Ses sourcils vibraient pareil à l'arc d'où vient de s'échapper la flèche mortelle. La ride blanche de son front faisait penser à la cicatrice d'un coup de foudre, et dans ses cheveux rutilants paraissaient flamber des flammes infernales. Et la pâleur marmoréenne de la peau donnait encore plus de relief à chaque trait de cette physionomie vraiment terrible. Paul se fit peur à lui-même. Il lui semblait que les effluves de ses yeux, renvoyés par le miroir, lui revenait en dards empoisonnés. Figurez-vous Méduse regardant sa tête horrible et charmante dans le fauve reflet d'un bouclier d'airain. L'on nous objectera peut-être qu'il est difficile de croire qu'un jeune homme du monde imbu de la science moderne, ayant vécu au milieu du scepticisme de la civilisation, ait pu prendre au sérieux un préjugé populaire et s'imaginer être doué fatalement d'une malfaisance mystérieuse. Mais nous répondrons qu'il y a un magnétisme irrésistible dans la pensée générale qui vous pénètre malgré vous et contre lequel une volonté unique ne lutte pas toujours efficacement. Tel arrive à Naples se moquant de la Jettatore qui finit par se hérisser de précautions cornues et fuir avec terreur tout individu à l'œil suspect. Et Paul d'Abremont se trouvait dans une position encore plus grave. Il avait lui-même le fascino, et chacun évitait ou faisait en sa présence les signes préservatifs recommandés par le signor Valetta. Quoique sa raison se révoltât contre une pareille appréciation, il ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'il présentait tous les indices dénonciateurs de la Jettatore. L'esprit humain, même le plus éclairé, garde toujours un coin sombre où s'accroupissent les hideuses chimères de la crédulité, où s'accrochent les chauves-souris de la superstition. La vie ordinaire elle-même est si pleine de problèmes insolubles que l'impossible y devient probable. On peut croire ou nier tout. À un certain point de vue, le rêve existe autant que la réalité. Paul se sentit pénétré d'une immense tristesse. Il était un monstre. Bien que doué des instincts les plus affectueux et de la nature la plus bienveillante, il portait le malheur avec lui. Son regard, involontairement chargé de venin, nuisait à ceux sur qui il s'arrêtait, quoique dans une ascension sympathique. Alors il avait l'affreux privilège de réunir, de concentrer, de distiller les miasmes morbides, les électricités dangereuses, les influences fatales de l'atmosphère pour les darder autour de lui. Plusieurs circonstances de sa vie, qui jusque-là lui avaient semblé obscures et dont il avait vaguement accusé le hasard, s'éclairaient maintenant d'un jour livide. Il se rappelait toutes sortes de mésaventures énigmatiques, de malheurs inexpliqués, de catastrophes sans motif dont il tenait à présent le mot. Des concordances bizarres s'établissaient dans son esprit et les confirmaient dans la triste opinion qu'il avait prise de lui-même. Il remonta sa vie année par année. Il se rappela sa mère morte en lui donnant le jour. La fin malheureuse de ses petits amis de collège, dont le plus cher s'était tué en tombant d'un arbre sur lequel lui, Paul, le regardait grimper. Cette partie de canot, si joyeusement commencée avec deux camarades, et d'où il est revenu seul après des efforts inouïs pour arracher les herbes et les corps des pauvres enfants noyés par le chavirement de la barque, l'assaut d'armes où son fleuret, brisé près du bouton et transformé ainsi en épée, avait blessé si dangereusement son adversaire, un jeune homme qu'il aimait beaucoup. À coup sûr, tout cela pouvait s'expliquer rationnellement, et Paul l'avait fait ainsi jusqu'alors. Pourtant, ce qu'il y avait d'accidentel et de fortuit dans ces événements lui paraissait dépendre d'une autre cause depuis qu'il connaissait le livre de Valletta. L'influence fatale, le fascino, la gettatura, devaient réclamer leur part de ces catastrophes. Une telle continuité de malheur autour du même personnage n'était pas naturelle. Une autre circonstance plus récente lui revint en mémoire avec tous ses détails horribles et ne contribua pas peu à l'affermir dans sa désolante croyance. À Londres, il allait souvent au théâtre de la Reine, où la grâce d'une jeune danseuse anglaise l'avait particulièrement frappé. Sans en être plus épris qu'on ne l'est d'une gracieuse figure de tableau ou de gravure, il la suivait du regard parmi ses compagnes du corps de ballet, à travers le tourbillon des manœuvres chorégraphiques. Il aimait ce visage doux et mélancolique, cette pâleur délicate qui ne roussissait jamais, l'animation de la danse, ses beaux cheveux d'un blond soyeux et lustré, couronnés suivant le rôle d'étoiles ou de fleurs, ce long regard perdu dans l'espace, ses épaules d'une chasteté virginale frissonnant sous la lorgnette, ses jambes qui soulevaient à regret leurs nuages de gaz et luisaient sous la soie comme le marbre d'une statue antique. Et chaque fois qu'elle passait devant la rampe, il la saluait de quelques petits signes d'admiration furtifs ou s'armait de son lorgnon pour la mieux voir. Un soir, la danseuse, emportée par le vol circulaire d'une valse, rasa de plus près cette étincelante ligne de feu qui sépare au théâtre le monde idéal du monde réel. Ses légères draperies de sylphide palpitaient comme des ailes de colombe prêtes à prendre l'essor. Un bec de gaz tira sa langue bleue et blanche et atteignit l'étoffe aérienne. En un moment, la flamme environna la jeune fille, qui dansa quelques secondes comme un feu follet au milieu d'une lueur rouge, et se jeta vers la coulisse, éperdue, folle de terreur, dévorée vive par ses vêtements incendiés. Paul avait été très douloureusement ému de ce malheur, dont parlèrent tous les journaux du temps, où l'on pouvait retrouver le nom de la victime, si l'on était curieux de le savoir. Mais son chagrin n'était pas mélangé de remords. Il ne s'attribuait aucune part dans l'accident qu'il déplorait plus que personne. Et bien maintenant, il était persuadé que son obstination à la poursuivre du regard n'avait pas été étrangère à la mort de cette charmante créature. Il se considérait comme son assassin. Il avait horreur de lui-même et aurait voulu n'être jamais né. À cette prostration succéda une réaction violente. Il se mit à rire d'un rire nerveux, jeta au diable le livre de Valetta et s'écria « Mais vraiment, je deviens imbécile ou fou ? Il faut que le soleil de Naples m'ait tapé sur la tête. Que diraient mes amis du club s'ils apprenaient que j'ai sérieusement agité dans ma conscience cette belle question, à savoir si je suis ou non le jettatore ?» Paddy frappa discrètement à la porte. Paul ouvrit, et le groom, formaliste dans son service, lui présenta sur le cuir verni de sa casquette, en s'excusant de ne pas avoir de plateau d'argent, une lettre de la part de Miss Alicia. Monsieur d'Apremont rompit le cachet et lut ce qui suit. « Est-ce que vous me boudez, Paul ? Vous n'êtes pas venu hier soir, et votre sorbet au citron s'est fendu mélancoliquement sur la table. Jusqu'à 9 heures, j'ai eu l'oreille aux aguets, cherchant à distinguer le bruit des roues de votre voiture à travers le chant obstiné des grillons et les ronflements des tambours de masque. Alors, il a fallu perdre tout espoir, et j'ai querellé le commodore. Admirez comme les femmes sont justes. Pulcinella, avec son nez noir, Don Limone et Donna Pantgracia ont donc bien du charme pour vous. Car je sais par ma police que vous avez passé votre soirée à San Carlino. De ces prétendues lettres importantes, vous n'en avez pas écrit une seule. Mais pourquoi ne pas avouer tout bonnement et tout bêtement que vous êtes jaloux du comte d'Almavilla? Je vous croyais plus orgueilleux, et cette modestie de votre part me touche. N'ayez aucune crainte. Monsieur d'Altavilla est trop beau, et je n'ai pas le goût des Apollons à breloques. Je devrais afficher à votre endroit un mépris superbe, et vous dire que je ne me suis pas aperçu de votre absence. Mais la vérité est que j'ai trouvé le temps fort long, que j'étais de très mauvaise humeur, très nerveuse, et que j'ai manqué de battre Vissé qui riait comme une folle. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. A. W. Cette lettre enjouée et moqueuse ramena tout à fait les idées de Paul au sentiment de la vie réelle. Il s'habilla, ordonna de faire avancer la voiture, et bientôt le voltairien Scaziga fit claquer son fouet incrédule aux oreilles de ses bêtes qui se lancèrent au galop sur le pavé de lave à travers la foule toujours compacte sur le quai de Santa Lucia. Ah, Scaziga, quelle mouche vous pique! Vous allez causer quelque malheur! S'écria M. d'Apremont. Le cocher se retourna vivement pour répondre et le regard irrité de Paul l'atteignit en plein visage. Une pierre qu'il n'avait pas vue souleva une des roues de devant et il tomba de son siège par la violence du hors, mais sans lâcher ses rênes. Agile comme un singe, il remonta d'un saut à sa place, ayant au front une grosse bosse comme un œuf de poule. Du diable, si je me retourne maintenant quand tu me parleras, grommela-t-il entre ses dents. Timberio, falsa cappa et gelsomina avaient raison. C'est un jettatore. Oh, demain j'achèterai une paire de cornes. Si ça ne peut pas faire de bien, ça ne peut pas faire de mal. Ce petit incident fut désagréable à Paul. Il le ramenait dans le cercle magique dont il voulait sortir. Une pierre se trouve tous les jours sous la roue d'une voiture. Un cocher maladroit se laisse choir de son siège. Rien n'est plus simple et plus vulgaire. Cependant, l'effet avait suivi la cause de si près. La chute de Skazig a coïncidé si justement avec le regard qu'il lui avait lancé que ses appréhensions lui revinrent. Oh, j'ai bien envie, se dit-il, de quitter dès demain ce pays extravagant où je sens ma cervelle ballotter dans mon crâne comme une noisette sèche dans sa coquille. Mais si je confiais mes craintes à Miss Ward, elle en rirait. Et le climat de Naples est favorable à sa santé. Sa santé, elle se portait bien avant de me connaître. Jamais ce nid de cygnes balancé sur les eaux qu'on nomme l'Angleterre n'avait produit une enfant plus blanche et plus rose. La vie éclatait dans ses yeux pleins de lumière, s'épanouissait sur ses joues fraîches et satinées. Un sang riche et pur courait en veines bleues sous sa peau transparente. On sentait à travers sa beauté une force gracieuse. Et comme sous mon regard, elle a pâli, maigri, changé. Comme ses mains délicates devenaient fluettes. Comme ses yeux si vifs s'entouraient de pénombres attendries. On eût dit que la consomption lui posait ses doigts osseux sur l'épaule. Et en mon absence, elle a bien vite repris ses vives couleurs. Le souffle joue librement dans sa poitrine, que le médecin interrogeait avec crainte. Délivrée de mon influence funeste, elle vivrait de longs jours. Mais n'est-ce pas moi qui la tue? L'autre soir, n'a-t-elle pas éprouvé, pendant que j'étais là, une souffrance si aiguë que ses joues se sont décolorées comme au souffle froid de la mort. Et ne lui fais-je pas le jettatura sans le vouloir? Mais peut-être aussi n'y a-t-il là rien que de naturel. Beaucoup de jeunes Anglaises ont des prédispositions aux maladies de poitrine. Ces pensées occupèrent Paul d'Apremont pendant la route. Et lorsqu'il se présenta sur la terrasse, séjour habituel de Miss Ward et du Commodore, les immenses cornes de bœufs de Sicile, présents du comte Almafilla, retournaient leur croissant, jaspés à l'endroit le plus en vue. Voyant que Paul les remarquait, le Commodore devint bleu, ce qui était sa manière de rougir, car moins délicat que sa nièce, il avait reçu les confidences de Vissé. Alicia, avec un geste de parfait dédain, fit signe à la servante d'emporter les cornes et fixa sur Paul son bel œil plein d'amour, de courage et de foi. « Non, laissez-les à leur place, » dit Paul à Vissé. « Elles sont fort belles. » Chapitre 9. L'observation de Paul sur les cornes données par le comte Altavilla parut faire plaisir au commodore. Vissé sourit, montrant sa denture dont les canines séparées et pointues brillaient d'une blancheur féroce. Alicia, d'un coup de paupière rapide, sembla poser à son ami une question qui resta sans réponse. Un silence gênant s'établit. Les premières minutes d'une visite même cordiale, familière, attendue et renouvelée tous les jours, sont ordinairement embarrassées. Pendant l'absence, n'eût-elle duré que quelques heures, il s'est reformé autour de chacun une atmosphère invisible contre laquelle se brisent les fusions. C'est comme une glace parfaitement transparente qui laisse apercevoir le paysage et que ne traverserait pas le vol d'une mouche. Il n'y a rien en apparence et pourtant on sent l'obstacle. Une arrière-pensée dissimulée par un grand usage du monde préoccupait en même temps les trois personnages de ce groupe habituellement plus à son aise. Le commodore tournait ses pouces avec un mouvement machinal. D'Apremont regardait obstinément les pointes noires et polies des cornes qu'il avait défendu à visser leur portée, comme un naturaliste cherchant à classer, d'après un fragment, une espèce inconnue. Alicia passait son doigt dans la rosette du large ruban qui ceignait son peignoir de mousseline, faisant mine d'en resserrer les nœuds. Ce fut Miss Ward qui remplit la glace, la première, avec cette liberté enjouée des jeunes filles anglaises, si modeste et si réservée, cependant, après le mariage. « Vraiment, Paul, vous n'êtes guère aimable depuis quelque temps. Votre galanterie est-elle une plante de serre froide qui ne peut s'épanouir qu'en Angleterre et dont la haute température de ces climats gêne le développement ? Mais comme vous étiez attentif, empressé, toujours aux petits soins dans notre cottage de Lincolnshire, vous m'abordiez, la bouche en cœur, la main sur la poitrine, irréprochablement frisée, prête à mettre un genou à terre devant l'idole de votre âme, telle enfin qu'on représente les amoureux sur les vignettes de romans. Je vous aime toujours, Alicia, répondit d'Apremont d'une voix profonde, mais sans quitter des yeux les cornes suspendues à l'une des cornes de nonnes antiques qui soutenaient le plafond de pampre. Oh, vous dites cela d'un ton si lugubre qu'il faudrait être bien coquette pour le croire, continua Miss Ward. J'imagine que ce qui vous plaisait en moi, c'était mon teint pâle, ma diaphanéinée, ma grâce océanesque et vaporeuse. Mon état de souffrance me donnait un certain charme romantique que j'ai perdu. Mais Alicia, mais jamais vous ne fûtes plus belle. Oh, les mots, les mots, les mots, comme dit Shakespeare. Je suis si belle que vous ne daignez pas me regarder. En effet, les yeux de M. d'Apremont ne s'étaient pas dirigés une seule fois vers la jeune fille. « Allons, dit-elle avec un grand soupir, comiquement exagéré, je vois que je suis devenue une grosse et forte paysanne, bien fraîche, bien colorée, bien rougeaude, sans la moindre distinction, incapable de figurer au bal d'Acmax ou dans un livre de beauté, séparée d'un soleil admiratif par une feuille de papier de soie. Miss Ward, vous prenez plaisir à vous calomnier. » dit Paul, les paupières baissées. Mais vous feriez mieux de m'avouer franchement que je suis affreuse. C'est votre faute aussi, commodore, avec vos ailes de poulet, vos noix de côtelette, vos filets de bœuf, vos petits verres de vin des Canaries, vos promenades à cheval, vos bains de mer, vos exercices gymnastiques. Vous m'avez fabriqué cette fatale santé bourgeoise qui dissipe les illusions poétiques de M. d'Apremont. Oh, vous tourmentez M. d'Apremont et vous vous moquez de moi, dit le commandant interpellé. Mais certainement le filet de bœuf est substantiel, et le vin des Canaries n'a jamais nuit à personne. Quel désappointement, mon pauvre Paul. Quitter une Nyx, un elfe, une Willis, et retrouver ce que les médecins et les parents appellent une jeune personne bien constituée. Mais écoutez-moi, puisque vous n'avez plus le courage de m'envisager et frémissez d'horreur, je pèse 7 onces de plus qu'à mon départ d'Angleterre. 8 onces, interrompit avec orgueil le commodore, qui soignait Alicia comme eût pu le faire la mère la plus tendre. « Est-ce 8 onces, précisément ? Oh, oncle terrible, vous voulez donc désenchanter à tout jamais, monsieur d'Apremont ? » fit Alicia en affectant un découragement moqueur. Pendant que la jeune fille le provoquait par ses coquetteries, qu'elle ne se fût permise même envers son fiancé sans de graves motifs, monsieur d'Apremont, en proie à son idée fixe, et ne voulant pas nuire à Miss Ward par son regard fatal, attachait ses yeux aux cornes talismaniques où les laissait errer vaguement sur l'immense étendue bleue qu'on découvrait du haut de la terrasse. Il se demandait s'il n'était pas de son devoir de fuir Alicia, dût-il passer pour un homme sans foi et sans honneur, et d'aller finir sa vie dans quelque île déserte, ou du moins sa jetature s'éteindrait faute d'un regard humain pour l'absorber. « Je vois, dit Alicia, continuant sa plaisanterie, ce qui vous rend si sombre et si sérieux. L'époque de notre mariage est fixée à un mois, et vous reculez à l'idée de devenir le mari d'une pauvre campagnarde qui n'a plus la moindre élégance. Oh, je vous rends votre parole. Vous pourrez épouser mon amie, Miss Sarah Templeton, qui mange des pickles et boit du vinaigre pour être mince. » Et cette imagination la fit rire de ce rire argentin et clair de la jeunesse. Le commodore et Paul s'associèrent franchement à son hilarité. Quand la dernière fusée de sa gaieté nerveuse se fut éteinte, elle vint à D'Apremont, le prit par la main, le conduisit au piano placé à l'angle de la terrasse, et lui dit en ouvrant un cahier de musique sur le pupitre, « Mon ami, vous n'êtes pas en train de causer aujourd'hui, et ce qui vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Vous allez donc faire votre partie dans ce duettino, dont l'accompagnement n'est pas difficile, ce sont presque des accords plaqués. » Paul s'assit sur le tabouret, Miss Alicia se mit debout près de lui, de manière à pouvoir suivre le chant sur la partition. Le commodore renversa sa tête, allongea ses jambes et prit une pause de béatitude anticipée, car il avait les prétentions au dilettantisme et affirmait adorer la musique. Mais dès la sixième mesure, il s'endormait du sommeil des justes, sommeil qu'il s'obstinait malgré les railleries de sa nièce, appelée une extase, quoi qu'il lui arrivât quelquefois de ronfler, symptôme médiocrement extatique. Le duettino était une vive et légère mélodie dans le goût de Cimarosa, sur des paroles de métastase, et que nous ne saurions mieux définir qu'en la comparant à un papillon traversant à plusieurs reprises un rayon de soleil. La musique a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Au bout de quelques phrases, Paul ne pensait plus aux doigts conjurateurs, aux cordes magiques, ni aux amulettes de corail. Il avait oublié le terrible bouquin du signor Valletta et toutes les rêveries de la jettatura. Son âme montait également vers la clavoie d'Alicia dans un air pur et lumineux. Les cigales faisaient silence, comme pour écouter, et la brise de mer qui venait de se lever emportait les notes avec les pétales des fleurs tombées des vases sur le rebord de la terrasse. Mon oncle dort comme les sept dormants dans leur grotte. S'il n'était pas coutumier du fait, il y aurait de quoi froisser. Notre amour-propre de virtuose, dit Alicia en refermant le cahier. Pendant qu'il repose, voulez-vous faire un tour de jardin avec moi, Paul ? Je vous ai pas encore montré mon paradis. » Et elle prit un clou planté dans l'une des colonnes, où il était suspendu par des brides, un large chapeau de paille de Florence. Alicia professait en fait d'horticulture les principes les plus bizarres. Elle ne voulait pas qu'on cueillît les fleurs ni qu'on taillât les branches. Et ce qui l'avait charmé dans la villa, c'était, comme nous l'avons dit, l'état sauvagement inculte du jardin. Les jeunes gens se frayaient une route au milieu des massifs qui se rejoignaient aussitôt après leur passage. Alicia marchait devant et riait de voir Paul cingler derrière elle par les branches de laurier rose qu'elle déplaçait. À peine avait-elle fait une vingtaine de pas que la main verte d'un rameau, comme pour faire une espièglerie végétale, saisit et retint son chapeau de paille en l'élevant si haut que Paul ne put le reprendre. Heureusement, le feuillage était touffu, et le soleil jetait à peine quelques sequins d'or sur le sable à travers les interstices des ramures. « Voici ma retraite favorite, » dit Alicia, en désignant à Paul un fragment de roche aux cassures pittoresques que protégeait un fouillis d'oranger le cédra de lentisques et de myrtes. Elle s'assit dans une anfractuosité taillée en forme de siège et fit signe à Paul de s'agenouiller devant elle sur l'épaisse mousse sèche qui tapissait le pied de la roche. Mettez vos deux mains dans les miennes et regardez-moi bien en face. Dans un mois, je serai votre femme. Mais pourquoi vos yeux évitent-ils les miens ? En effet, Paul, revenu à ses rêveries de jetature, détournait la vue. Feriez-vous d'y lire une pensée contraire au coupable ? Vous savez que mon âme est à vous depuis le jour où vous avez apporté à mon oncle la lettre de recommandation dans le pouvoir de Richmond. Je suis de la race de ces Anglaises, tendres, romanesques et fières, qui prennent en une minute un amour qui dure toute la vie, plus que la vie peut-être, et qui sait aimer, sait mourir. Plongez vos regards dans les miens, je le veux. N'essayez pas de baisser la paupière, ne vous détournez pas. Ou je penserai qu'un gentleman qui ne doit craindre que Dieu se laisse effrayer par de viles superstitions. Fixez sur moi cet œil que vous croyez si terrible et qui m'est si doux, car j'y vois votre amour, et jugez si vous me trouvez assez jolie encore pour me mener, quand nous serons mariés, promener à Hyde Park en calèche découverte. Paul est perdu. Fixait sur Alicia un long regard, plein de passion et d'enthousiasme. Tout à coup, la jeune fille pâlit. Une douleur lancinante lui traversa le cœur comme un fer de flèche. Il sembla que quelques fibres se rompaient dans sa poitrine, et elle porta vivement son mouchoir à ses lèvres. Une goutte rouge tacha la fine batiste qu'Alicia replia d'un geste rapide. « Oh, merci, Paul. Vous m'avez rendue bien heureuse, car je croyais que vous ne m'aimiez plus. »